Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui des résultats de l'adoption dans notre vie et dans notre marche chrétienne. Et j'introduirai cette méditation en lisant deux textes dans la parole de Dieu. Tout d'abord dans l'Épître aux Galates au chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul écrit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et le second texte, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 15, l'apôtre Paul écrit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est le glorieux résultat ou l'un des glorieux résultats de l'adoption. C'est que Dieu envoie dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Nous recevons l'Esprit du Fils de Dieu. Et la parole de Dieu est claire à ce sujet. Cet Esprit crie en nous « Abba, Père ». « Abba » est un mot araméen qui est l'équivalent dans notre langue française de « papa ». Les deux syllabes de ce mot « Abba » étaient les premières que le petit enfant balbutiait en s'adressant à son père. Pardon aux sœurs dans la foi qui m'écoutent aujourd'hui, mais les premiers mots que le bébé prononce, c'est pas « maman », quelle que soit la langue parlée, c'est « abba », c'est « papa ». Et ce mot n'a pas d'autre étymologie. Et il nous parle de l'intimité qui s'établit entre le Fils et son Père. Aucun serviteur ne bénéficie de cette intimité. Aucun esclave ne prononce ce mot dans la maison, parce qu'il n'a pas de père, mais un maître. Ce mot a été consacré pour exprimer dans la parole de Dieu quelque chose qui ailleurs est inexprimable. Et je vais m'expliquer là-dessus. C'est le mot de Jésus à Gethsémané. Et j'aimerais vous lire ce que l'évangéliste Marc écrit au chapitre 14 de son évangile, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Nous réalisons bien dans le combat que Jésus livre ici dans la prière à Gethsémané et dans les mots qu'il emploie lorsqu'il s'adresse à Dieu, notamment lorsqu'il prononce ce mot « Abba », qu'il y a là toute la profondeur de la sainte révérence de Jésus pour Dieu et en même temps la profondeur de l'affection que Jésus peut avoir pour Dieu le Père. Il dit « Abba, Père, Papa ». D'ailleurs, vous remarquez ceci, et c'est très intéressant de le relever, c'est que Marc, dont l'évangile dans son texte original était en grec, n'a pas traduit ce mot. Le texte original de l'évangile de Marc est en grec, mais le mot reste en chaldéen, en araméen. Marc laisse le mot « Abba » dans la bouche de Jésus. Ce mot est laissé tel quel dans le texte grec. Et l'apôtre Paul va suivre le même exemple que l'évangéliste Marc. Dans l'épître aux Romains au chapitre 8, verset 15, Paul écrit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et dans le texte de l'épître aux Galates, au chapitre 4, qui a été lu tout à l'heure, je le relis, chapitre 4, verset 6 de l'épître aux Galates, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Le texte original de l'épître aux Romains, c'est le grec. Le texte original de l'épître aux Galates, c'est le grec. Mais l'apôtre Paul, dans l'une et l'autre de ses lettres, ne traduit pas en grec ce mot que nous inspire l'Esprit de Dieu. Il le laisse dans l'original divin, « Abba, Père, Abba ». Les traducteurs ont suivi l'exemple de Marc et de Paul, parce que nous avons le texte de la parole de Dieu dans notre langue maternelle, le français, et vous remarquez que, alors que nous avons dans l'évangile de Marc, dans l'épître aux Romains, dans l'épître aux Galates, la manifestation de l'esprit d'adoption qui est l'esprit du Fils de Dieu en nous, eh bien l'expression est laissée telle qu'elle. Les traducteurs ont suivi encore une fois l'exemple de Marc et de Paul, et ils laissent ce mot, même dans notre traduction française, ils laissent le mot « Abba ». Et ce n'est pas pour rien. Je pense qu'il y a là quelque chose de très sacré, de très mystérieux, quelque chose qui exprime une intimité entre l'âme qui a reçu l'adoption et le Seigneur qui devient le Père. Il faut d'ailleurs nous laisser pénétrer par le contexte de Gethsémané. Le mot « Abba » en cette circonstance-là exprime la conscience de la relation avec le Père. Mais non seulement cela, mais il exprime aussi les sentiments de cette relation, et je dirais les sentiments dans cette relation. Le Saint-Esprit nous fait comprendre ici la signification spirituelle profonde qui n'est connue d'ailleurs que du cœur de celui qui a ses affections. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le mot dans la bouche et de dire à Dieu Père, ou même aller jusqu'à dire Abba, ce ne peut être malheureusement que parfois un mot dans la bouche. Quant à la signification spirituelle profonde et le vécu, il ne peut être le résultat que du cœur de celui qui a de ses affections réelles pour Dieu le Père. Et puisque nous replaçons ce mot dans le contexte de Gethsémané, je voudrais encore ajouter ceci, c'est que Abba, c'est le mot de celui qui est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pour accomplir la volonté du Père. C'est le mot qui a été dans la bouche de Jésus à ce moment-là, Abba, Père, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors nous pouvons dire Abba, Père, mais si ce n'est que pour recevoir les bénédictions de Dieu, pour être protégé, pour être guéri, pour être secouru, nous sommes loin, très loin de la pensée du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Je pense que si nous prononçons ce mot « Père » et que nous allons même jusqu'à prononcer le mot « Abba », il faut que ce soit sous l'influence bénie et puissante de l'Esprit de Dieu qui nous fait ressentir tout le bénéfice de l'adoption. Oui, nous recevons l'Esprit du Fils de Dieu, mais alors si nous recevons cet Esprit-là, nous allons manifester une consécration totale, notre vie va être totalement livrée entre les mains du Seigneur, nous allons réentendre cette parole de Jésus, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » À Gethsémané, il n'est pas question de ce que l'Esprit Saint fait en nous, mais il est question de ce que nous faisons pour Dieu, étant prêts à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix, pour accomplir la volonté du Seigneur, et ce, encore une fois, parce que nous aurons reçu l'Esprit d'adoption. Un autre résultat glorieux de l'Esprit d'adoption dans notre vie, l'apôtre Paul l'exprime au chapitre 8, verset 15 de l'Épître aux Romains, j'aimerais vous le relire, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Bien-aimés frères et sœurs, le glorieux ou l'un des glorieux résultats de l'adoption dans notre vie, c'est que le Saint-Esprit nous délivre de toute crainte. Et nous sommes remplis d'une confiance filiale en notre Dieu. L'apôtre Paul s'est permis de rappeler à son jeune collaborateur Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité ou de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il écrit cela dans sa seconde lettre à Timothée, au chapitre 1er, verset 7. Et si nous replaçons cette parole de l'apôtre Paul que je viens de citer dans son contexte, alors on s'aperçoit que l'apôtre Paul, pour sa part, était délivré de toute crainte face à la vie, délivré de toute crainte face à ses souffrances, face à ses oppositions, face à ses persécutions. Et comment ne pas penser à l'attitude des apôtres lorsqu'ils ont été traduits devant les chefs religieux après le miracle accompli dans le corps du boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la belle porte du temple, alors que les apôtres Pierre et Jean doivent se défendre et défendre leur foi devant les autorités religieuses de Jérusalem, la parole de Dieu nous dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, a parlé de Jésus, parlé de la foi dans le nom de Jésus, et que c'est par la foi au nom de Jésus que le miracle s'était produit dans le corps du boiteux. Et la parole de Dieu ajoute, lorsque les chefs religieux virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Le Saint-Esprit qui le remplissait était l'Esprit du Fils de Dieu, l'Esprit d'adoption, et cet Esprit-là les délivrait de toute crainte. Nous avons en mémoire ce que la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants de Dieu, participent au sang et à la chair, c'est-à-dire puisqu'ils ont un corps humain, il, Jésus, y a également participé lui-même, c'est-à-dire il s'est abaissé de son rang divin pour venir sur notre terre comme un simple homme. Il, Jésus, y a également participé lui-même, il a eu un corps semblable à nous, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude. L'esprit d'adoption nous amène à une libération de toute crainte face à la mort et une libération de toute crainte face à l'épouvante que l'idée de la mort peut engendrer dans le cœur humain. Maintenant, je voudrais ajouter ceci. Dans le domaine de l'obéissance à Dieu, le serviteur ou l'esclave dans la maison obéit par crainte, mais le fils obéit par amour. Et l'apôtre Jean a écrit quelque chose de très fort à ce sujet dans sa première lettre, au chapitre 4, les versets 18 et 19. Je vais vous les lire lentement. Ce sont des paroles que peu de croyants comprennent vraiment. Jean écrit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne ici? Il y a une différence énorme entre le fait d'obéir par crainte et le fait d'obéir par amour. Je vais vous citer prendre un exemple pour imager cela. Il y a une différence entre la femme qui est fidèle à son mari par crainte de lui, même jusqu'à dire par peur de lui, et la femme qui va être fidèle à son mari parce qu'elle l'aime. Et au fond, c'est là que se situe toute la différence dans le motif profond qui se cache derrière l'obéissance à Dieu. Et c'est là qu'apparaît un grand rôle du Saint-Esprit dans notre cœur, je dirais le rôle de, l'esprit d'adoption. Vous vous souvenez ce que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Galates au chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et dans sa lettre aux Romains au chapitre 5, verset 5, Paul écrit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » La loi, entendez par là la loi de Moïse, ne peut pas engendrer l'obéissance totale et surtout pas l'obéissance par amour. La loi engendre la crainte. Seul l'amour est capable d'engendrer non seulement l'obéissance totale, mais une obéissance avec des motifs qui sont agréables à Dieu. Et c'est dans l'adoption, c'est dans notre adoption, mes frères et sœurs, que se manifeste cet amour-là. Le Seigneur Jésus en a posé les fondements dans son enseignement et cet enseignement nous est rapporté dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Tout d'abord, le verset 15. Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jésus ne dit pas « si vous avez peur, si vous craignez le châtiment, si vous avez peur que le Père vous punisse, si vous avez peur de l'enfer. » Il dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Autrement dit, l'obéissance, la vraie, va être motivée par notre amour pour le Seigneur. Jésus dit aussi au verset 21 « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Il ne dit pas « celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui a peur. » Peur de Dieu, peur d'être châtié, puni, damné pour l'enfer. Non, non. Jésus dit « celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » L'amour, au fond, doit être le mobile profond de notre obéissance à Dieu. Et Jésus ajoute « Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et encore, au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jésus ne dit pas si quelqu'un a peur, si quelqu'un est dans la crainte, si quelqu'un panique à la pensée de l'enfer, mais Jésus dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons veiller au motif profond de notre marche, de notre service, de notre obéissance à Dieu. Nous ne le ferons pas par crainte si l'esprit d'adoption remplit nos cœurs, mais nous le ferons par amour. Et je voudrais terminer en vous parlant d'un troisième résultat glorieux de l'adoption dans notre vie, c'est que nous avons part à la liberté des enfants de Dieu. Je relis dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, verset 4, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et dans la même Épître aux Galates, au chapitre 3, verset 23 et suivant, « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » L'adoption nous donne la liberté des enfants de Dieu. Nous sommes délivrés de la servitude de la loi pour bénéficier pleinement de la liberté des enfants de Dieu. Il n'y a pas de lien là où se trouve l'esprit d'adoption. Les mouvements de la chair, de notre chair, conduisent à l'esclavage. Mais les mouvements de l'esprit de Dieu en nous, les mouvements de l'esprit d'adoption conduisent à la liberté. Nous avons alors conscience de la grâce, de l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes conduits par son esprit, nous apprécions ce qui est divin, nous trouvons notre plaisir en Dieu et nous répondons à son amour. Et toutes nos relations avec Dieu s'établissent alors dans cet esprit d'adoption. Et l'adoption place l'être humain, chacun de nous, enfant de Dieu, dans sa destination primitive. Après la chute, l'homme est l'image de l'homme. Je m'explique. Dans la Genèse, au chapitre 5, verset 1er, il est dit « Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » Et nous pouvons en lire les conséquences bénies. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Mais Adam et Ève ont chuté. Le péché est entré dans leur vie et l'image de Dieu a été abîmée. L'image de Dieu a été salie, détruite. Ce qui fait que la parole de Dieu nous dit au chapitre 5, verset 3 de la Genèse, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Ce n'est plus l'image glorieuse, resplendissante, magnifique de Dieu, mais c'est l'image d'un homme déchu, d'un homme marqué par le péché. Quel va être en Jésus-Christ le rôle de l'adoption dans notre vie? Quel va être le travail de l'esprit d'adoption dans notre cœur? C'est de rétablir l'image de Dieu dans ce que la parole de Dieu appelle l'homme nouveau. Et je voudrais vous relire ce que l'apôtre Paul a écrit dans son épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 24, lorsqu'il exhorte les Éphésiens à revêtir l'homme nouveau, et il précise « l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Et il écrit dans sa lettre aux Colossiens quelque chose de semblable, au chapitre 3, verset 10, « Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Quel merveilleux privilège de la grâce de Dieu! Nous ne portons plus en nous l'image du vieil homme, de l'homme déchu, de l'homme qui a tout gâché, tout saccagé, tout abîmé par le péché, mais nous portons en nous l'image de celui qui est saint, parfait et qui est venu tout rétablir, tout reconstruire, qui est venu mettre en nous à nouveau l'image de Dieu le Père. Quelle grâce nous avons dans la personne et dans l'œuvre de Jésus accomplie à la croix, quelle grâce dans le fait d'avoir bénéficié en lui de l'adoption, quelle grâce d'avoir reçu cet esprit d'adoption qui, je le répète pour conclure, produit en nous trois résultats. Nous recevons l'esprit du Fils de Dieu qui nous amène à dire « Abba, Père ». Nous sommes délivrés de toute crainte et nous jouissons de la pleine liberté des enfants de Dieu étant reconstruits dans l'image du Père, dans l'image de notre Dieu, pouvant être pleinement sa présence, contempler sa face, le laisser agir dans notre vie, nous conduire jour après jour. Oui, que Dieu nous amène à rendre grâce continuellement pour l'adoption et que nous n'oublions jamais tous ces résultats glorieux dans notre vie, que nous puissions travailler à les conserver et à en jouir pleinement à chaque instant, à chaque pas nouveau, accomplis dans notre sentier de chrétiens. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen.